Nancy Chapuis.
Bonjour, la 12e édition de Delémont BD se termine gentiment, une édition marquée par de fortes chaleurs. Mais il n'y a pas que les températures élevées qui ont donné des sueurs froides aux organisateurs. C'est toute la préparation avant le festival qui a été source de stress. Et pourtant, le directeur artistique de Delémont BD se trouve en face de nous, tout sourire. Célia Milani, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir en direct dans nos studios pour tirer le bilan de cette 12e édition de Delémont BD. En janvier, après des démissions en cascade, on vous projetait directeur artistique. Aujourd'hui, est-ce que c'était un pari fou de maintenir ce festival en 2026?
Je pense que c'était un pari exigeant, mais quand on s'est lancé là-dedans, c'était aussi en mesurant les risques, en se disant qu'on allait un peu inventer du temps, mais on a essayé de ne pas se laisser envahir par le stress, de prendre les choses les unes après les autres, de rien promettre, mais tout tenter.
En janvier, lors de la conférence de presse, vous affirmiez que 2026 ne sera pas une édition au rabais. Est-ce que vous constatez en refermant cette 12e édition?
Ça sera au public et aux auteurs et autrices de le dire, mais nous, on a en tout cas fait de notre mieux, c'est-à-dire une vingtaine d'expositions qui étaient, à mon sens, artistiquement réussies. On a eu un programme qui était autant alléchant que les dernières années, avec aussi des nouveautés, des concerts BD. On a mélangé des groupes jurassiens avec des artistes internationaux de BD. On a essayé de rassembler dans notre cour du château, on a essayé d'amener la population, pas seulement les fans de BD, mais aussi et à les réunir autour d'une fête. Et je pense que, pareil, les 45 auteurs et autrices qui étaient là étaient de qualité. On a eu vraiment des séances de dédicaces magnifiques, des performances magnifiques. Et voilà, moi, en tout cas, je suis extrêmement fier. J'ai eu des retours et des gens très reconnaissants. Donc, je pense qu'on peut partir la tête haute.
Votre prédécesseur démissionnaire, Cédric Humer, évoquait une fatigue des équipes, un manque de moyens physiques et financiers. Vous le ressentez aussi?
On avait une toute nouvelle équipe, donc forcément plutôt fraîche. Et je crois que ce qui a été compliqué, c'est de trouver nos marques là-dedans, d'apprendre tout en faisant. On a eu le soutien aussi de Philippe Duvanel. Et je dois dire que avec Nicolas Frézard, avec qui on collabore depuis longtemps, et Gaël Frossard, avec qui on a l'habitude aussi de travailler, on a réussi, je pense, à créer un climat de création très détendu. On a toujours essayé de garder le sourire, de relativiser et d'aller vers l'avant. Et les moyens financiers étaient là, on les a trouvés, on a cherché des possibilités de soutenir nos expositions, soutenir des interventions, nos scènes, etc. Et je pense que les moyens techniques, on se les a donnés aussi et que tout a bien fonctionné.
Cette édition 2026 a été marquée par de fortes chaleurs. D'habitude, environ 16 000 personnes fréquentent votre festival. Est-ce que vous pensez arriver au même chiffre cette année?
Je trouve qu'il y a eu du monde partout. Dans tout ce qu'on proposait, il y avait du monde. Mais je vais pas pouvoir articuler de chiffres parce que je pense que ce serait pas très honnête. On est un festival qui est ouvert. On est un festival gratuit, libre d'accès en extérieur. Donc, calculer ce que les gens ont bu, car il faisait très chaud, ou bien le nombre de gens qu'il y avait dans les expos intérieurs, mais qui représentent pas toutes les personnes qui ont fréquenté l'espace jeunesse, qui ont fréquenté les performances, qui se sont installés là pour manger, boire, faire la fête. Je pense qu'on peut pas du tout le définir aussi précisément. Mais par contre, on peut dire que chaque fois qu'on a créé quelque chose dans notre programme, les gens étaient au rendez-vous. Moi, c'était ma crainte que les gens ne se retrouvent pas là ou bien qu'ils préfèrent aller à la fête de Glovelier ou bien rester à l'ombre à la maison. Et au contraire, il y a eu des gens un peu partout, tout le temps. On a réussi à mixer les publics et les personnes qui étaient là l'ont vu. La cour du château était remplie, les expositions aussi. Et il y avait toujours du monde pendant nos performances au SAS ou à l'extérieur. Peut-être les jardins du château étaient un peu plus vides aujourd'hui. Je pense que c'était un temps à aller à la piscine, effectivement. Mais dès qu'il y avait un rendez-vous avec un dessinateur, les gens arrivaient. Donc, tout allait bien.
Donc, finalement, travailler dans le stress pour monter un Delémont BD, ça vous plaît? Ça n'a pas eu de conséquences?
Les gens qui me connaissent diraient que c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je viens aussi du monde du spectacle où le but, c'est toujours de faire avec peu de moyens ou bien peu de temps, mais beaucoup d'idées, d'inventivité, de créativité et surtout de toujours enlever les doutes aux gens, plutôt leur donner de l'espoir. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Et de toute façon, on est là pour tirer tous à la même corde, essayer d'amener la culture de manière populaire. On est là pour essayer de rassembler et de le faire avec le sourire. Et on ne doit pas se laisser envahir par le stress. Et je crois qu'on a réussi.
On va évidemment s'imaginer dans une année. Est-ce que Delémont BD va vivre une 13e édition en 2027 avec la même équipe à sa tête, à savoir vous, Célia Milani, en tant que directeur artistique, Gaël Frossard et Philippe Duvanel pour vous appuyer?
Alors Philippe Duvanel, non, parce que c'était dès le départ sa proposition de cette année, c'était de lancer l'impulsion, puis de laisser faire. C'est ce qu'il a fait. Il m'a soutenu dans toute l'élaboration des expositions et ensuite, dès le vendredi, il m'a dit « Mais non, c'est à toi ». Et il ne pouvait de toute façon pas être là pendant la suite du week-end. Donc, c'était une très belle manière de passer le flambeau cette année et je l'en remercie. Après, il y a encore Nicolas Frézard qui était vraiment autant que moi collaborateur et comment on dit l'élan qui a fait avancer ce festival avec aussi Gaël Frossard et tout le reste du bureau. Je pense que tout le monde serait repartant. En tout cas, on a tous esquissé beaucoup de joie pendant ce week-end et on se l'est dit. Mais ça sera la responsabilité du conseil de fondation. Nous, on arrive au bout de notre mandat. On va faire le bilan, le proposer, le soumettre au conseil de fondation, au conseil de ville. On va le partager au conseil communal aussi. Et ça sera au conseil de fondation de dire s'ils sont prêts à nous réemployer, à continuer avec nous. Nous, en tout cas, on est prêts à se mettre au service de cette mission et avec plaisir.
Célia Milani, directeur artistique de Limon VD, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. On vous souhaite une belle fin de journée.
Merci, je vais aller ranger.
Il y a du boulot, j'imagine. Et retrouvez sur notre site internet différents reflets, notamment une galerie photo de cette 12e édition de Limon VD, dont l'hôte d'honneur était Gilles Roussel, alias Boulet. Les produits des fermes jurassiennes, stars d'un dîner parisien. Le canton du Jura est l'invité de ce mercredi 24 juin de la soirée suisse 2026 de l'ambassade de Suisse en France. Et le buffet sera assuré par les paysannes jurassiennes avec des produits 100% locaux issus de nos fermes. Il faudra nourrir 500 convives dans la capitale mondiale de la gastronomie. Un défi aussi logistique comme le montre l'intensité de ces derniers jours, explique la présidente des paysannes jurassiennes Edwige Stelet.
Une grande fourmilière avec des producteurs et des productrices qui préparent certains éléments qui vont être pris dans le camion parce qu'on part avec un camion frigorifique donc le 23 juin au matin. Cette préparation se fait maintenant parce que certains mets sont déjà confectionnés ici, ceux qui peuvent l'être. Et ensuite, lundi, ce sera la grande fourmilière parce qu'il faudra aller récupérer tous ces produits dans tous les districts, chez tous les petits artisans, les paysannes, etc. pour mettre tout ça dans le camion pour partir pour Paris. Et puis ensuite, le 23, donc il faudra passer une douane. Ça, c'est un grand stress pour nous, oui, parce qu'effectivement, ça demande une charge administrative conséquente. Il a fallu peser tous les éléments, empaqueter, dire exactement quel élément est dans quelle caisse. Donc, c'est vrai que c'est un gros, gros, gros challenge.
Départ prévu mardi matin, tout devra être prêt et dressé à l'ambassade de Suisse à Paris mercredi à 18h. Les citoyens des Enfers souhaitent qu'Amélie Braillet intègre le conseil communal. La centriste a obtenu 8 voix sur 33 aujourd'hui lors d'une élection libre pour remplacer la démissionnaire Élodie Détroya. L'ancienne candidate au gouvernement jurassien demande un temps de réflexion avant de se prononcer sur cette nouvelle fonction. Le taux de participation de ce scrutin s'élève à 31%. La canicule s'installe dans la région. Si beaucoup cherchent à se mettre au frais, certains n'ont pas cette possibilité. C'est notamment le cas des ouvriers de la construction. Dans un récent communiqué, UNIA a dénoncé les conditions de travail parfois extrêmes sur les chantiers. Le syndicat réclame notamment l'arrêt des travaux pénibles en extérieur lorsque la température dépasse les 33 degrés. La Société suisse des entrepreneurs qui défend les intérêts du milieu de la construction nous livre sa position sur ce point. Sa porte-parole, Joanne Stettler.
Dans le cadre de la nouvelle convention nationale, la SSE s'est ainsi engagée à ce que pendant les 6 prochaines années, la santé des employés soit protégée lors des après-midi de forte chaleur. Et là, ce sont les maîtres d'ouvrage qui jouent un rôle clé. Lorsque le travail en extérieur n'est plus raisonnable et que la protection de la santé des salariés ne peut plus être garantie, il doit être possible d'interrompre les travaux sur les parties du chantier dépourvues d'ombre sans que cela ait de répercussions négatives sur les délais et les pénalités contractuelles. Les maîtres d'ouvrage publics doivent autoriser les ajustements de délais correspondants.
Vous évoquez les délais. Le syndicat affirme que la pression de ces dates butoirs par les maîtres d'ouvrage pousse à négliger ces mesures de protection minimale. Est-ce que vous soutenez cette position ?
La SSE exige des maîtres d'ouvrage qu'ils se montrent co-responsables. C'est en effet eux qui sont en mesure d'actionner le plus grand levier pour protéger les ouvriers du bâtiment de la chaleur. Lorsqu'un chantier est ralenti en raison d'une réduction du rythme ou d'un report partiel des travaux du fait de la canicule, ceux-ci devraient sans hésitation aucune ni pénalité prolonger les délais de réalisation pour les entreprises concernées et leurs collaborateurs et leurs collaboratrices.
Des propos recueillis par Diana Dacosta. En période de canicule, la SSE recommande aux entreprises de la construction d'accorder à leurs collaborateurs davantage de pauses dans un endroit frais et de boire suffisamment d'eau. Le sommet du Bürgerstock a effectivement commencé. Cet après-midi, le vice-président américain Jd Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont entamé des discussions avec les médiateurs pakistanais et qatariens. Pour Jd Vance, c'est une rencontre historique pour changer le Moyen-Orient. Des tractations qui devraient durer 2 mois afin de mettre sur pied le protocole d'accord signé par les présidents américains et iraniens. Il est 18h10 et on passe à l'actualité sportive avec vous, Corentin Rey. C'est le sacre de Tadej Pogacar, sans rival sur le Tour de Suisse.
Le cycliste slovène a remporté la 89e édition de la boucle nationale aujourd'hui. Il devance de près de 4 minutes 30 l'équatorien Richard Carapaz au général. Tadej Pogacar a terminé en beauté avec une 3e victoire d'étape en 5 jours aujourd'hui après 150 km de parcours autour de Villers-sur-Ollon. Le slovène a réalisé une remontée dans les derniers efforts pour devancer le français Lenny Martinez de 7 secondes dans les Préalpes vaudoises. Tadej Pogacar s'offre ainsi un 2e titre en Suisse après le Tour de Romandie remporté il y a un mois et demi. Chez les dames, Marlène Reusser a été couronnée pour la 3e fois sur ce Tour de Suisse. Au lendemain de sa victoire sur le contre-la-montre, la cycliste bernoise a remporté la 5e et dernière étape ce matin à Villers-sur-Ollon. Elle a devancé Cédrine Kerbaol de 7 secondes et termine avec 1 minute 30 d'avance sur la française au général. La polonaise Kasia Niewiadoma a complété le podium du jour et du classement final. Marlène Reusser conserve ainsi son titre sur la boucle nationale. Ce 3e sacre est peut-être son plus beau ou du moins le plus inattendu, Marlène Reusser.
J'étais vraiment cramée. Hein. J'étais vraiment aux limites, mais peu à peu, je peux comprendre qu'on a pu gagner. Ouais, mais là, j'étais vraiment cramée. Ouais, cette année, c'est super spécial pour moi parce que les années dernières que j'ai pu gagner, c'était, j'y arrivais avec une très bonne forme et j'étais assez confiante, mais je savais que je suis bien là. Cette année, je savais que j'ai bien de problèmes et je suis pas super en forme et ça fait pas 2 semaines qu'on a terminé le Giro. Les mêmes coureuses m'ont lâché, mais beaucoup. J'avais vraiment des problèmes avec une jambe et que ça va maintenant comme ça, ça me rend un peu plus confiante et ça me dit qu'on a travaillé sur les bonnes choses entre temps. Ouais.
Et cette année, le Tour de Suisse féminin s'est déroulé le même jour que l'épreuve masculine pour la toute première fois. Le titre du Tour de Slovénie pour Florian Lipovits. Le cycliste allemand s'est adjugé la victoire au général après avoir remporté la 5e et dernière étape aujourd'hui à Novo Mesto. Il a dominé l'épreuve avec une avance finale de plus de 40 secondes sur son coéquipier italien Giulio Pellizzari. Cédric Itten évoluera en Bundesliga la saison prochaine. L'attaquant balois quitte le Fortuna Düsseldorf, relégué en 3e division allemande, pour rejoindre le Werder Bremen dans l'élite, selon une annonce faite par le club aujourd'hui. L'international helvétique est actuellement en Amérique du Nord, où il dispute le mondial avec la Nati. Le SHC Rossmaison devra patienter avant de décrocher un 3e sacre continental. Les Rossignols se sont inclinés en demi-finale de la Coupe d'Europe d'Inline Hockey face aux Vikings de Copenhague 7-4 cet après-midi. Le SHCR avait pourtant bien débuté sa journée avec une victoire en quart contre les Danois de Gentofte Stars 4-2. Il jouera encore la petite finale pour savoir s'il terminera sur le podium de la compétition qui s'est déroulée ce week-end à Bienne. Et vous retrouvez une galerie photo de cette Coupe d'Europe d'Inline Hockey sur notre site rfj.ch. Gaëtan Jolia reste en retrait du CSIO 5 étoiles de Rotterdam. Le cavalier jurassien a dû se contenter de la 25e place cet après-midi aux Pays-Bas. Il a commis 2 erreurs pour 8 points de pénalité et n'est pas parvenu à se qualifier pour les barrages. L'épreuve a été remportée par le Britannique Ben Maher alors que 2 Suisses ont terminé au pied du podium. Le Zurichois Martin Fuchs a pris le 4e rang et l'Écossais de naissance Jason Smith est 6e. Enfin, Marc Marquez décroche le Grand Prix MotoGP de Brno. Le pilote espagnol a devancé le japonais Ayogura et son coéquipier italien Francesco Bagnaia cet après-midi en République tchèque. Marco Bezzecchi reste leader du général malgré sa disqualification. L'italien avait été exclu de la course principale après avoir giflé un commissaire de course hier à la suite d'une chute lors du sprint.
Et avant de conclure ce journal, un détour par la météo. La soirée s'annonce dégagée, donc plutôt chaude. Demain, à nouveau, de belles conditions et un mercure qui continue d'afficher des températures au-dessus des 30 degrés au meilleur de la journée. Le risque orageux est nul. Cette canicule va peser sur le reste de la semaine, avec même un 37 degrés annoncé vendredi. Courage pour celles et ceux qui travaillent en extérieur. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer une semaine agréable.